Je m'appelle Manfred Henninger, voilà, je suis né à Weimar, ma mère étant allemande, danseuse étoile à l'opéra de Weimar. Mon père alsacien a fait partie des malgré nous, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des jeunes à l'époque embauchés de force dans l'armée allemande. Il a eu sa blessure de guerre au front russe. Il a été soigné à Weimar de sa blessure. Ma mère étant danseuse étoile, mais a été réquisitionnée comme infirmière, elle a connu mon père. Après, c'est classé X. Je ne sais pas la suite, et du coup, je suis arrivé moi. Mon père est rentré à la maison, ma mère étant restée encore les quelques mois. Et quand les Russes sont arrivés à Weimar, ma mère s'est barrée vite fait à Strasbourg. Tout avait été détruit, donc hein, il n'y avait même plus de train, hein, ça, tout avait été bombardé. Elle a mis, je crois, 2 mois pour faire Weimar, Strasbourg. Avec moi sous le bras, hein, avec 1 mois hein, ou 2, un truc comme ça. Voilà. Et du coup, alors, c'est ce qui m'est arrivé, enfin, ce qui est arrivé à mes parents surtout, c'est que quand ils m'ont reconnu à l'état civil à Strasbourg, en 45, sur mon acte d'extrait de naissance, c'est Manfred. L'officier d'état civil a dit non, Manfred, c'est trop. On a encore les traces de bottes sur la figure, vous n'avez pas autre chose. Mon père a dit Jean-Pierre, ça vous va? Donc, sur tous mes trucs de la mairie de Strasbourg, d'état civil, c'était Jean-Pierre, mais mon extrait de naissance, c'était Manfred. Ça m'a pourri la vie pendant 70 ans. En gros, c'est pour résumer. Voilà. Donc maintenant, je mets JP Manfred partout. Démerdez-vous. Voilà. Manfred, c'est mon vrai prénom.
Alors, vous avez vécu en Alsace et après, vous êtes venu en Alsace, ici comment?
Non. Après, bah, j'ai fait les Beaux-Arts hein, à Strasbourg. Je suis arrivé ici, c'est... Y a pas de hasard, hein. Il y a des petites ficelles qu'on suit comme ça. J'avais mon meilleur ami à l'époque, on avait fait les arts déco ensemble, avait un ami que je connaissais de vue et qui s'était installé en 67 à Brandt. C'était Pierre Scherrer. Voilà. C'était donc l'ami de mon ami. Il venait de se marier. Il s'est dit, voilà, bah, je vais faire mon voyage de noces à Brandt. Il me téléphone, parce que c'était mon pote, il me dit, qu'est-ce que t'as à faire, qu'est-ce que t'as à foutre? Je dis, je sais pas, moi. Il me dit, bah, viens nous rejoindre, là-bas. Alors j'ai pris ma 2 chevaux. Le gars, Steph, qui maintenant a 54 ans, avait 6 mois. Je l'ai mis derrière dans la 2 chevaux. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Hein. Donc j'ai mis 14 heures, on est arrivé ici à 1h du matin, avec des flocons de neige au col de la Perronnière, il y avait déjà 20 cm. Pour un Alsacien, c'est pas grave, la neige en 2 jours. Je suis arrivé ici, bon, paf, j'ai dormi à la Gignès chez M. Et le matin, à 10h du matin, quand j'ai ouvert les volets, le ciel bleu provençal qu'on connaît pas en Alsace, voilà. Et puis alors, y avait 50 cm de neige la nuit. Il y avait ce immatriculé blanc.
C'est bon. Oui.
Immatriculé blanc. Et puis il y avait un décès. Donc comme il ne pouvait pas descendre au cimetière en bas avec la voiture, hein, il y avait 50 cm de neige. Donc il y avait cette espèce de procession en noir. Avec le corps, non, le corps dans un drap, le cercueil c'était trop lourd, qui descendait donc à la. Pour moi, c'était une image, ce ciel bleu, le vent tout blanc et cette espèce de truc noir, c'était une image que j'oublierai jamais. Et mon copain devait acheter ici, mais comme on est resté bloqué, c'était les années où il y avait les congères en bas. Où il y a eu tant de morts sur la nationale, Donc, nous, on est resté bloqué 15 jours ici. Donc, mon pote, qui voulait prendre, acheter ici, sa femme a dit, non, non, on vient de se marier, si tu veux ravitailler par les corbeaux, on divorce tout de suite. Moi, j'ai regardé ma compagne, Chris, que tu as connue certainement, qui est là, Chris qui m'a dit oui, 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 parce que nous on s'est concerté quand même, hein, moi j'allais pas faire. Et puis on a dit oui, donc c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Ah bon. Mais ici c'était une ruine, hein, c'était ici, il y avait un âne, il y en a toujours un. À côté il y avait des chèvres, et dessous il y avait un cochon, une cochonne, je ne me rappelle plus, dessous. Voilà, et on a acheté ça. Avec mon atelier qui était encore plus qu'une ruine, c'était, il y avait quasiment plus rien. Donc on a acheté, on a retapé, enfin j'ai retapé pendant 6 ans, donc de 70 on a acheté jusqu'en 76, tous les ans je passais. Ben, à l'époque, ben Chris était expert comptable aux forges de Strasbourg, donc ça allait bien, hein. Moi, j'étais décorateur maquettiste dans un grand bureau d'architecture. Tout allait bien aussi. Ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, le fait d'avoir bossé chez un architecte. Et du coup, bon, on avait un mois de vacances, donc j'ai essayé de retaper tout ça. Et puis, on a sauté le cap en 76. Voilà. Voilà. Et en 76, j'ai commencé à nettoyer le terrain dessous, où j'ai mon atelier, là. Et là, mon atelier, j'ai mis 6 mois à sortir 192 tonnes de merde, pelletées 4 fois dans des goulettes jusqu'à la mairie, en triant les cailloux, et j'ai rebâti mon atelier. Et j'ai fini en 79. Et donc, Chris, elle, s'occupait avec Scherer, s'occupait des chèvres. On avait des poules, des lapins, un jardin. Elle faisait les saisons, hein, les fraises, les olives, ben, voilà. On a réussi à survivre comme ça. C'était de la survie, hein, à l'époque, hein. Mais on est arrivé ici avec le love peace, hein, moi j'avais la barbe, les cheveux longs, enfin bon, bref, c'est le retour à la terre, enfin bref. À l'époque où beaucoup de jeunes ont fait cette démarche, mais le chèque de papa, il suivait pas, il avait 3 ampoules dans la main, il retournait dans le béton et le goudron. Et nous, on est restés. En gros, ça, c'est la démarche à la louche, hein, un peu. Voilà. Et donc, on est resté là. J'ai rebâti mon atelier. J'ai commencé à bosser. Les gens, la plupart du temps, m'ont vu faire de la maçonnerie. Ils m'ont dit, ton fer forgé, c'est cher. C'est du luxe, hein, le fer forgé. C'est cher, on n'en a pas besoin. Mais si tu pouvais nous refaire le toit, ouvrir une fenêtre, machin, tout. Et donc, je me suis devenu tailleur de pierre, en fait, finalement. Et donc, j'ai fait plus de maisons et j'ai plus taillé la pierre que le fer forgé. Le fer forgé est revenu là, récemment. Enfin, récemment, oui, ça fait un moment quand même. Oui. Mais disons, non, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des clients que j'ai eus, où j'ai fait des maisons en pierre, à la fin, quand le striptease est total et que le fer forgé est toujours encore trop cher, ils m'ont dit, voilà, ben, dans 10 ans, quand on s'est refait, tu nous referas les grilles, les rampes, les machins. Et ça s'est passé comme ça. Ce qui fait qu'au départ, pendant 20 ou 30 ans, j'ai fait de la pierre. Et les mêmes clients sont revenus pour que je finalise la maison 10, 20 ans après avec le métal. C'est une suite logique, je dirais presque. Hein. Mais c'est une, comment dirais-je, moi, j'ai jamais eu, par exemple, dans 95% des cas de figure, on était invité à la crémaillère, hein, pour faire... voilà, c'était devenu les clients des amis. Bien sûr. Contrairement à certains pavillonneurs qui, eux, 95% sont en procédure, quoi, je veux dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout à fait une autre démarche. Donc, je me suis jamais enrichi ici, mais je me suis fait plaisir et j'ai, je pense, avoir réussi ma vie comme je voulais. Comme je l'entendais. Par contre, entre-temps, j'ai quand même... Chris est décédé. Après, j'ai eu Lynn comme compagne, elle est décédée aussi. Commence à faire beaucoup, et voilà. Voilà. Mais bon, ben, c'est comme ça. C'est la vie, hein. C'est la vie.
Alors, comment avez-vous pu être tailleur de pierre, forgeron et restaurateur des maisons et artiste, parce que vous êtes artiste.
Alors, artiste, moi, c'est presque, actuellement, hein, c'est presque une injure pour moi. Moi, je suis un artisan. Il y a le mot art dedans aussi. Artiste, quand on voit des mecs qui compriment des bagnoles et qui vous disent que c'est de l'art, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal avec ce genre de phénomène. Et ça s'arrange pas, hein, actuellement, avec la cancel culture, enfin, tout ce bordel-là. Moi, non. Artiste, c'est un peu galvaudé. Personnellement.
Mais vous étiez au Beaux-Arts.
Artisan. Moi, je suis fier d'être artisan. Et je tape sur la table.
Alors, vous avez fait des belles choses. C'était.
Ben, j'espère. Le faire le beau, c'est le but d'un artisan, hein, je pense. Un artiste, c'est pas sûr. Mais un artisan, oui. Mon père m'avait expliqué ça. Hein. Lui, il était sculpteur. Hein, donc, toutes les sculptures qu'on voit ici, c'était mon petit papa. Bildhauer, hein, comme on dit.
Oui.
Et donc, lui, il m'a appris, un sculpteur fait du beau, mais qui sert à rien. C'est-à-dire, c'est juste pour faire beau. Une sculpture, voilà. Un artisan fait du beau utile. C'est-à-dire, on peut avoir une fourchette toute bête et une très très belle fourchette. Mais c'est utile, mais c'est beau. En gros, moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué. C'est la différence entre un artiste et un artisan. Voilà. Ouais, c'est un peu... Bon, pas tout à fait ça non plus, mais en gros, c'est pas loin.
Alors, vous avez toujours essayé de faire tout ce que vous avez fait beau.
Voilà. J'ai essayé. C'est pas sûr, hein. J'y suis pas toujours arrivé, hein. Et puis, alors, il y a le beau de l'un n'est pas obligatoirement le beau de quelqu'un d'autre, hein. Après, c'est un débat, hein, qu'on peut faire. Voilà. Mais bon, moi j'ai essayé. Puis alors, comment dirais-je, on a une culture, hein, quand on a fait les arts décoratifs à Strasbourg, on apprend ça. Alors moi j'avais déjà un peu des dons, hein, toute ma famille était dans le domaine de l'art, donc déjà, génétiquement parlant, je devais déjà avoir un peu quelque chose. Après, ben, les écoles, vous le continuez à l'époque où ça voulait peut-être encore dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on apprenait des métiers d'art, ou d'art décoratif. C'est-à-dire que vous faisiez un métier, vous appreniez un métier par des maîtres compagnons, donc bah, des pointures. Si vous sortiez et vous n'étiez pas vraiment dans le beau, vous aviez au moins un métier et vous le faisiez correctement. Hein, c'était un métier, un métier. Et si vous arrivez à passer le cap, vous faites du métier avec un plus, quoi, je veux dire. Et après, on a toujours encore un peu plus. Et puis après, c'est fini.
Cette table ici, par exemple, parlez-moi de cette table, s'il vous plaît.
Ah, cette table, bah, c'est des traverses de chemin de fer, hein. Tout bête, hein, que j'ai trouvé, qu'on m'a donné à Strasbourg encore. Je sais exactement le cheminement des trains qu'il y avait dessus, qui partait de Colmar à Metzeral. C'était un petit tchouk-tchouk qui partait dans la montagne dans les années 1800, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de produit dessus. Hein, ça ne sent pas le lindane ou je ne sais pas ce qu'ils mettaient. Ouais, l'espèce de saloperie, là. Donc, c'est du bois à l'état pur. Mais qui, en poussant, alors, d'une certaine région, je ne sais pas d'où exactement, mais ça devait être sur du granit. Donc, dans la poussée, dans la sève, il y avait beaucoup de particules de granit dedans, hein, dans la sève, en poussant. Ce qui fait que c'était presque si à scier, parce que là, moi, j'ai une traverse de chemin de fer, ça fait ça. J'ai pris que le milieu. Donc, il a fallu découper tout ça. De chaque côté. Oui, donc il y a eu, je ne sais pas, 9 ou 10 affûtages sur l'acier à ruban. Une scie à ruban de... Le mec, il m'en a voulu, d'ailleurs, hein, parce que je lui ai pourri sa lame. Et j'ai fait, voilà. Et j'ai bâti cette table, voilà. Le banc ici, c'est un banc d'église qui vient catholique, hein, bien sûr, catholique. Hein, puisqu'on peut bien s'asseoir dessus, on peut dormir même. Alors, sur un banc protestant, on peut pas. On est comme... Les pieds, c'est un truc que j'ai pompé, hein, au crayon, dans le musée alsacien à Strasbourg. J'ai vu le ça me plaisait bien, j'ai dit, tiens, je vais faire comme ça. En plus, c'est tout démontable, parce qu'il fallait que je le trimballe jusqu'ici, et que j'étais seul à porter tout ça. Donc, j'ai fait tout ça démontable. Voilà. C'est encore démontable. Il y a des clavettes, là, hein, pour voilà. Il y a un pied au milieu, on peut sortir tout ça, on peut lever ça. Ça, c'est pris sur des... Et vu son porte... Mais le problème, enfin, ce qui s'était passé à l'époque, mon petit, ici, quand il était petit, on avait une porte en isoplane avec deux tréteaux. Et quand un petit vous tape avec la tête dedans, il n'y a plus rien dans le verre. Ça, c'est pas bien, hein, quand il n'y a plus rien dans le verre. Donc, je me suis dit, je vais faire une table que quand il tape dedans, il y a toujours quelque chose dans le verre. Et lui, il a une bosse comme ça, et donc ça va arriver qu'une seule fois. Après, il va s'arrêter tout seul. Et ça s'est passé comme ça. C'est un apprentissage, même pour les petits. Et puis, du coup, on a une belle table.
Et vous avez...
Et le petit a appris à prendre des bosses.
Le pauvre.
Voilà.
Et pourquoi vous n'avez pas pris du bois neuf ou du bois...
Non. Mais j'avais pas les moyens.
Ah.
J'avais pas les moyens de faire avec du neuf. Donc la plupart de ce qu'on voit ici, bon, je parle pas du frigo, de la gardinière, j'étais obligé d'acheter, mais le carrelage, c'est des lots dépareillés que j'ai achetés à l'époque chez Meffre à Bédon. Le plafond a été refait en 2009. C'est mon fils qui l'a refait. Il est charpentier, donc j'ai refait la toiture en 2009 aussi. Et j'ai eu encore de plus la petite ficelle qu'on suit. Mais je pourrais plus le faire maintenant. En 2009, j'ai pu le faire. J'avais les moyens, j'avais le télé. Tout s'est goupillé de telle manière, ça s'enquille, ça s'enclenche. C'est impeccable. Je touche du bois, enfin, pas trop fort. Tout a une vie ici. Alors la porte, je parle pas de celle-là, hein, devant la première. Alors ça, il y avait même pas le petit sas d'entrée. Le petit sas d'entrée, je l'ai fait en sortant les pierres de chez le voisin où j'avais un chantier. Je savais pas où aller avec les pierres, j'ai fait un sas d'entrée. Je suis parti de là pour aller là.
Bien.
Voilà. Et donc, pendant un moment, il n'y avait pas de porte à l'entrée, il n'y avait que celle-là. Et à un moment donné, on a eu une inondation, c'est-à-dire l'eau est arrivée et j'avais ça d'eau ici dedans. Voilà. C'est pareil, j'avais pas de terrasse ici, il y avait une fenêtre là, il n'y avait pas de... Donc j'ai ouvert, j'ai refait la toiture en bas, et au lieu de faire une toiture, j'ai fait une toiture terrasse, ici. Voilà. En gros, c'est vrai. Et du coup, la porte, on revient sur la porte. Sur un chantier, on devait démonter un poulailler, je ne sais pas, du 16e, 17e, enfin, un vieux machin, qu'on a démonté exprès, parce que le gars, on voulait récupérer les pierres d'angle, hein, qui étaient superbes, et les pierres au milieu. Le paysan a dit, mais vous prenez tout, mais vous me rasez tout pour que je puisse avoir qu'un seul champ, et plus ce cabanon au milieu. C'est tout ou rien. Donc, on a tout enlevé. Et il y avait une espèce un étage. C'était un poulailler, hein, où les planches étaient en chêne, épaisse comme ça, de 5 cm. Tout scié encore au scieur de long, hein, il y avait les traces de scie dedans. Et voilà, moi j'ai dit, bon, il y avait ça de merde de poule tassée de 200 ans, hein, je veux dire, je me suis dit, ça chauffe aussi, ça, hein. Au contraire, c'est un bon... Je me suis dit, j'emmène tout à la maison, je vais me chauffer en hiver avec ce plancher-là. Et quand j'ai commencé à scier, ça m'a fondu la chaîne de la tronçonneuse. Le bois était fossilisé quasiment. Il était dur. Du coup, j'ai gardé les plus droites, les plus belles. Les autres, effectivement, je me suis chauffé avec. Et les plus belles, je me suis dit, je vais faire ma lourde, hein, comme on dit. J'ai fait ma lourde. Voilà. Et j'ai fait ma porte avec ça. Il y a 20 ans, grosso modo, une vingtaine d'années. Et là, je me suis rendu compte il y a quelques années, où j'ai vu un dépliant sur les anciennes portes de Provence, les vieilles portes de Provence. Il y avait la mienne dessus. Et je l'ai gardé, le truc. Je l'ai gardé. C'est pas une vieille porte, elle a 20, 25 ans, hein, pas plus. Mais j'ai fait comme si c'était là depuis 200 ans. Hein. Super. Ça s'appelle de la restauration, en fait, hein, c'est ça. Et puis l'envie de bien faire, hein, je veux dire, enfin, voilà. Pour moi-même, j'aurais pu faire ça simple, bâtard, quoi, comme... Non. Voilà.